Vous écoutez On lit pour vous.
Ils sont l'espoir de la culture d'ici. Un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 10 novembre 2025 dans la presse. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent du peu d'intérêt des jeunes pour la culture québécoise. Mais malgré les statistiques préoccupantes, certains en mangent encore. La presse en a réuni quelques-uns pour parler de ce qui les fait vibrer et pour recueillir leurs idées pour assurer l'avenir. Des jeunes épris de culture québécoise. Il y a un fossé entre les jeunes et la culture québécoise. En résumé, entre 70 % et 80 % des Québécois de 15 à 29 ans consomment surtout des contenus venus d'ailleurs. Une tendance qui peut rendre pessimiste quant à l'avenir de notre culture. La presse a voulu parler aux autres, c'est-à-dire aux 20 à 30 % qui s'intéressent à ce qui se fait ici et trouvent cela important. Comment les a-t-on recrutés? Par un appel à tous sur TikTok. En l'espace d'environ 48 heures, ils ont été des dizaines à se porter volontaires pour participer à une table ronde sur la culture québécoise. Plus de 150 au total, faisant chacun valoir ses préférés. De Ricardo Troggi à Harmonium, de François Pérusse à Avec pas de casque. Je suis la référence de contenu québécois dans mon cercle d'amis, a écrit Gabriel Hurteau, 24 ans, citant Jean-Pierre Ferland, des émissions comme Bellefleur et La Galère. La web-fiction, ça prend pas le chat à Papineau ou un roman québécois recommandé par Mariana Mazza. Dilara Bouya, 25 ans, née au Québec de parents bangladais, a regardé Tactique et les parents en grandissant. Elle écoute maintenant des balados sur Audio, aime les films de Xavier Dolan et les chansons de Jean Leloup. « Mon but est de lire tous les ouvrages de Nelly Arcan », précise-t-elle. Il a fallu faire un tri difficile pour constituer un panel diversifié de 7 adolescents et jeunes adultes, sans prétendre qu'il est représentatif de leur génération. Isaac Perron-Bouchard, 25 ans, a glissé dans son message que lire Paul à Québec l'a aidé à traverser le deuil de son grand-père. Rock Ekwe, 20 ans, a raconté avoir regardé Virginie et La Galère par-dessus l'épaule de sa mère, en faisant semblant de faire ses devoirs. Des détails qui donnaient envie de les entendre davantage. Notre groupe des 7 s'est réuni un jeudi soir d'octobre à la presse pour parler de la place qu'occupe la culture québécoise dans leur vie. De ce qui lui manque aussi, comme de la diversité. On a beaucoup de culture au Québec, a souligné Maïna Maud Lemire, 19 ans. Et il ne faut pas oublier les nations autochtones. D'abord, à la maison. Mes parents me font découvrir de la musique québécoise constamment. On écoute aussi beaucoup de films québécois ensemble, dit d'emblée Léo G. Châtelain, 16 ans. Il cite notamment Gaspard Blues de Louis Bélanger et Crazy de Jean-Marc Vallée, des œuvres qu'il a beaucoup appréciées. Il n'est pas le seul à avoir eu accès à la musique, au cinéma et à la télévision d'ici en famille. C'est le cas de la majorité d'entre eux, même lorsque l'un et parfois leurs deux parents ne sont pas nés au Québec. Or, le milieu familial n'est pas la courroie de transmission de toutes les formes d'art. La littérature m'a plus été transmise à travers l'école, signale Sarah Lila Mansour, 27 ans. L'école a quand même une grande influence, juge aussi Maïna Maud Lemire. La culture imposée peut rebuter, souligne cependant Léo Pomerlo, 19 ans. Ce qu'on lui a enseigné lui a d'abord donné l'impression que la culture québécoise, c'était juste des vieilles affaires. Le patrimoine culturel compte, convient l'étudiant à l'UQAM, qui pense néanmoins que les enseignants doivent se garder à jour pour susciter de l'intérêt chez leurs élèves, surtout à l'adolescence. Isaac Perron-Bouchard reconnaît qu'à cet âge, il s'est tourné vers la culture américaine, jugée plus attrayante par ses amis et lui. Maïna Maud Lemire glisse par ailleurs que si tous ses amis avaient délaissé la culture québécoise, elle n'aurait probablement pas suivi la voie tracée par ses parents. Rassembler autour de la diversité. Le fossé entre les générations est particulièrement marqué lorsqu'on parle de télévision. Si l'écoute de télé traditionnelle est une habitude encore bien ancrée chez une majorité de Québécois, elle est en chute libre chez les moins de 18 ans. Autour de la table, tout le monde parle spontanément des services de diffusion en continu. Il cite Netflix, le plus populaire des services du genre, mais aussi Amazon Prime et Crave. Personne ne mentionne d'emblée Tout.tv ou Télé-Québec, bien que plusieurs d'entre eux aient grandi devant Tactique, Les Argonautes ou Conseil de famille, des émissions qui ont été diffusées sur cette chaîne. La télévision québécoise, plusieurs l'ont délaissée à l'adolescence. Les émissions de fiction québécoise, il n'y en a pas foule que je suivrai activement. Excusez la généralisation, mais pourquoi est-ce qu'il y a juste des émissions de police et d'hôpital? Questionne Léo Pomerlo, 19 ans. Il n'est pas le seul à trouver que la télé d'ici imite les Américains. On a regardé Grey's Anatomy, c'est sur Netflix. Alors les jeunes de notre âge ne vont pas regarder Stat, tranche Maïna Maud Lemire. L'impression que les séries québécoises sont en retard est partagée par plusieurs. En même temps, je trouve qu'il y en a qui essaient de rattraper ce retard-là. Comme « Ils vécurent heureux », nuance Zoé Garraud. Moi, j'ai vraiment accroché. Il y avait des valeurs similaires aux miennes. On devrait aussi avoir plus de séries de genre, comme de la science-fiction et de l'horreur. Le cinéma et la télé québécois devraient toucher plus de sujets qui nous intéressent, énonce Maïna Maud-Lemire, 19 ans. Notre génération est quand même assez inclusive, alors je pense qu'on pourrait s'identifier à des histoires qui abordent différents types de relations, de genre et de personnes. Ces critiques n'empêchent pas une vague de sympathie pour Empathie, qui tranche avec l'ordinaire de la télévision d'ici. Il ne fait aucun doute à leurs yeux que les productions québécoises doivent être diffusées sur les plateformes les plus populaires. Américaines, donc. Celles espèrent rallier un jeune public. C'est d'ailleurs là que Maïna Maud-Lemire et ses amis ont rattrapé Fugueuse des années après sa diffusion initiale, dit-elle. Zoé Garraud suggère aussi que les productions d'ici devraient être mieux identifiées sur les plateformes en ligne, ce qui les rendrait plus accessibles. Se reconnaître à l'écran ou dans toute forme d'art est primordial à leurs yeux. C'est vraiment important d'avoir une attache, dit Isaac Perron-Bouchard. D'où ce besoin souligné par une majorité des adolescents et jeunes adultes réunis autour de la table d'une plus grande diversité. De s'ouvrir pour mieux rassembler, si la chose est possible. Pour la survie de la culture québécoise, dit Rock Écoué, 20 ans, il faudra se créer de nouveaux référents communs, autant pour les anglophones, les francophones et les peuples autochtones. Il va falloir pousser la culture créée ici. Je ne sais pas encore dans quel format, mais il faut que ça arrive. Sinon, on va juste se fragmenter encore plus. La jeune femme se dit modérément optimiste quant à l'avenir de la culture québécoise. Isaac Perron-Bouchard n'est pas pessimiste, mais relève qu'autour de lui, à part sa famille, personne n'écoute vraiment de contenu québécois. Il n'est certainement pas le seul à vivre dans ce genre d'environnement, si on se rappelle que la majorité des 15 à 29 ans consomme peu de culture québécoise. « Je trouve qu'on est sur une belle lancée », avance néanmoins Maïna Maud-Lemire. « Je suis peut-être biaisée parce que mon entourage s'intéresse beaucoup à la culture québécoise, mais je pense qu'il faut avoir espoir. » Zoé Garraud est d'accord. « J'espère qu'on va élargir, » ajoute-t-elle, « accéder à plus de diversité de toutes sortes, parce que ça va plus refléter notre société. » Vous écoutez? Ils sont l'espoir de la culture d'ici. Un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 10 novembre 2025 dans la presse. Et les créateurs de contenu? La culture québécoise, pour des jeunes de cette génération, inclut notamment les influenceurs ou créateurs de contenu d'ici, actifs en ligne, sur TikTok, Instagram et YouTube. Zoé Garraud cite Ali Brassard et Shaheen West. Sarah Lila Mansour parle de Brendan Meekan et Nabil Queen. Ils ne font pas nécessairement la promotion de films ou de quoi que ce soit d'autre, mais il y en a qui testent des produits québécois et des choses à faire dans les alentours. Ça fait quand même partie de la culture québécoise, juge-t-elle. Un lien avec l'indépendance. Sur Instagram, Léo G. Châtelain suit des comptes indépendantistes. Zoé Garraud aussi. Je trouve ça le fun parce que, comme ils font souvent des concerts ou des événements du genre, ça permet de célébrer notre culture, dit-elle. Tous ne précisent pas leur position politique, mais certains des jeunes réunis par la presse tracent un lien direct entre leur intérêt pour la culture québécoise et leur allégeance indépendantiste. S'intéresser à la culture, c'est s'intéresser à l'histoire, remarque Léo Pomerleau. Maïna Maud-Lemire associe pour sa part la ferveur indépendantiste des jeunes à une volonté de se protéger des États-Unis sur le plan culturel. Une culture québécoise en anglais? Il est évident que pour plusieurs des participants que la culture québécoise est désormais multiple. Or, tous s'entendent pour considérer que ce qui se fait ici en anglais en fait partie. Sarah Lila Mansour regrette que Kay Tranada, compositeur de musique électronique élevé à Saint-Hubert, très réputé, il a notamment remporté un Grammy, ne soit pas considéré comme québécois par tout le monde, selon elle. Rock Écoué déplore que Men I Trust, un groupe de Québec qui mène une carrière internationale en anglais, soit si peu reconnu ici. Léo Pomerleau, lui, n'est pas totalement de cet avis. « Quand je parlais d'inclure d'autres langues, je ne parlais pas nécessairement de l'anglais, » précise-t-il, « qui est déjà très présent autour de nous en Amérique du Nord. » Passeur de culture. Faire connaître la culture québécoise est-il le rôle de l'école ou des familles? Des parents et des enseignants racontent les gestes parfois simples qu'ils font pour transmettre notre culture aux prochaines générations. « La culture, il faut la vivre ici », affirme Roxane Lafont, enseignante au primaire. Il y a toujours de la musique dans la maison de Roxane Lafont. Alors, c'est tout naturellement que l'enseignante au primaire s'est mise à en faire écouter à ses élèves. Pas seulement pour mettre de l'ambiance, aussi et même surtout pour rendre son enseignement plus vivant. Mon objectif, c'est que les enfants aiment venir à l'école. Je veux les raccrocher, je veux leur donner le goût d'être là. Et la musique, c'est parfait pour ça, dit-elle. Chaque mois, Roxane Lafont sélectionne 3 chansons d'un artiste québécois qu'elle va travailler avec sa classe. Autrement dit, chaque année, c'est 30 chansons de 10 artistes d'ici qu'elle emporte à l'école. Ses élèves les chantent tous les jours, en décortiquent le vocabulaire et en explorent les thématiques. C'est un projet qui devient vraiment multidisciplinaire parce que j'y intègre les notions que je dois voir en deuxième année, dit-elle. Intégrer des chansons de Daniel Bélanger, Safia Nolin, Ingrid Saint-Pierre, Loco Locas, Alexandre Poulain ou Étienne Copé lui permet aussi de parler de plein de choses que les enfants peuvent vivre à la maison. Séparation des parents, perte de mémoire d'un des grands-parents, etc. Son geste procède aussi d'un désir conscient de transmission. La culture, il faut la vivre. Je suis enseignante et c'est mon rôle de la mettre de l'avant, explique-t-elle. Transmettre la culture québécoise en classe crée un point commun entre tous les élèves. J'ai beaucoup de commentaires de parents tout au long de l'année qui me disent qu'ils découvrent ou redécouvrent la culture québécoise à travers les chansons qui se transportent jusqu'à la maison. Un dialogue dans les deux sens. Emmanuel Roy et Nicolas Anger. La culture québécoise chez Emmanuel Roy et Nicolas Anger, c'est d'abord la musique d'ici. On ne s'est pas fait un plan d'intervention pour la transmettre à nos enfants, souligne Emmanuel Roy, parlant de leur fils de 14, 23 et 26 ans. Ça s'est fait naturellement. Ils n'ont toutefois pas effectué le travail tout seuls. Le service de garde de l'école où sont allés nos deux plus vieux a aussi joué un rôle, précise la mère de famille. C'est par ce chemin que les Cowboys fringants et les trois accords sont arrivés dans leur vie. C'est rapidement devenu un échange, souligne Nicolas Anger. Ils ont aussi assisté à des spectacles en famille, Lou-Adrienne Cassidy l'été dernier, et aussi des vieilles affaires comme Plume la traverse, quand l'occasion se présente. Ça a pu contribuer à accrocher leurs enfants, pense d'ailleurs le père. Leur plus jeune semble moins attiré que ses frères par la musique québécoise, selon ses parents. Ce qu'on a trouvé comme truc, dit Emmanuel Roy, c'est de faire une liste de lectures conjointes pour quand on fait de la route. C'est aussi une façon intéressante de faire en sorte qu'on partage la même musique pendant ce laps de temps. Ce souci de transmettre la culture québécoise doit être fait dans l'ouverture, selon elle. Il faut s'intéresser à ce qui les intéresse aussi, dit-elle. On ne peut pas demander aux jeunes d'être curieux si nous, on ne l'est plus et qu'on ne veut qu'imposer nos choix. Provoquer des rencontres. Michel Stringer, enseignant au secondaire. Il y a un déclin des connaissances de la culture québécoise chez les élèves et de leur intérêt pour celle-ci, constate Michel Stringer, enseignant au secondaire. Je ne veux pas être négatif par rapport à ça, c'est dans l'air du temps. Il se détourne de la culture québécoise, dit-il. L'enseignant trouve même de plus en plus difficile de trouver des références culturelles communes entre ses élèves et lui, et même entre ses élèves eux-mêmes. C'est à moi de travailler plus fort, dit-il. En même temps, il juge impossible de rentrer la culture québécoise dans la gorge des élèves, comme le gouvernement de la coalition Avenir Québec, CAQ, souhaite le faire, selon lui. Que faire alors? Accueillir des artistes en classe. Susciter des échanges autour de leurs pratiques est l'une des meilleures façons de provoquer un vrai maillage entre culture et éducation, d'après lui. Les artistes sont plus accessibles qu'on pense, affirme-t-il. Ils sont parfois intimidés de venir rencontrer des adolescents, mais à partir du moment où la mayonnaise prend, c'est fou jusqu'où on peut aller. Quand j'ai réalisé ça, j'ai eu l'impression de tenir quelque chose qui m'a moi-même motivée à lire pour mes élèves et à me tenir à jour au sujet de l'offre culturelle. Chaque année, il propose d'ailleurs de nombreuses sorties culturelles à sa classe. Théâtre, danse, cinéma, concerts symphoniques, etc. Aucune n'est obligatoire pour tous les élèves. Mais chacun doit sortir 4 fois hors des heures de classe. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent et s'ils veulent tout voir, dit-il, ils peuvent tout voir. Vous écoutez, ils sont l'espoir de la culture d'ici. Un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 10 novembre 2025 dans la presse. Le téléphone peut être un allié. Sandrine Blondeau, enseignante d'art dramatique au secondaire. Les élèves sont curieux, mais ils ne savent pas comment alimenter leur curiosité, constate Sandrine Blondeau, professeure d'art dramatique dans une école secondaire de Granby. Il n'y a plus vraiment d'émissions québécoises pour les jeunes, déplore-t-elle. Et quand on allume la télé, c'est souvent directement sur Netflix, Amazon Prime ou Crave, qui proposent surtout des productions américaines. Il faut piquer la curiosité des jeunes, mais aussi les accompagner pour les intéresser à la culture québécoise, selon elle. Sa façon de faire? Proposer. L'enseignante de 25 ans montre des émissions, des films et des vidéos d'artistes québécois. Parfois, ce qu'elle aimait lorsqu'elle avait l'âge de ses élèves. Sandrine Blondeau juge aussi essentiel d'inculquer les bons réflexes à ses élèves. c'est-à-dire aller voir sur TouTV, par exemple, même s'ils ont Netflix ou Crave à la maison. Aller voir les profils d'artistes, acteurs ou humoristes québécois sur les réseaux sociaux et en suivre certains pour les faire embarquer dans leur algorithme. Leur apprendre à chercher dans quel autre film ou série a joué un interprète qu'ils ont aimé. Il ne fait aucun doute pour la jeune enseignante que les réseaux sociaux et le téléphone cellulaire peuvent être des atouts. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir sorti le téléphone de l'école, mais il faudrait éventuellement rouvrir le dialogue par rapport à son utilisation, nuance-t-elle. Supposons que je parle de Xavier Dolan pendant mon cours. Maintenant qu'ils n'ont plus de téléphone, les élèves vont l'oublier, alors que l'année dernière, j'ai vu beaucoup aller faire des recherches sur l'Internet et les réseaux sociaux, ajoute-t-elle. Dans ces cas-là, le téléphone peut être bon allié. Avoir des références communes. Patrick Lévesque. Transmettre la culture est d'abord le rôle des parents, pas tellement celui de l'école, estime Patrick Lévesque. Ce rôle lui tient à cœur. Si tu veux participer à une société, il faut que tu en connaisses l'histoire et la culture. Ça passe par les émissions, les vieilles comme les nouvelles, estime l'entrepreneur, par des références communes tirées de la culture populaire. Avec son fils adolescent, il a beaucoup écouté les émissions humoristiques à la radio de Radio-Canada, notamment à la semaine prochaine. Il lui a fait découvrir La Petite Vie, que son garçon a adoré, mais aussi Les Filles de Caleb. C'est sûr qu'il a résisté un peu, convient-il. Ce n'est pas le genre d'émission qu'il aurait regardé en rafale. Il a donc offert un incitatif à son fils pour le convaincre. Plus de temps pour jouer à ses jeux vidéo ou regarder YouTube. « Je suis sûre qu'il en a tiré quelque chose », dit-il à propos des filles de Caleb. « Il y a une connaissance de l'histoire qui passe à travers une série comme ça. L'échange fonctionne dans les deux sens. Son garçon lui a fait découvrir Complètement lissé, parodie de série américaine pour ados, dans laquelle joue notamment Pierre-Yves Roy Desmarais. L'entrepreneur déplore aussi que les applications comme Netflix soient préinstallées sur les téléviseurs vendus aujourd'hui et qu'on doive ajouter manuellement Tout.tv et celle de Télé-Québec. Par défaut, sur les appareils vendus ici, il ne devrait y avoir que les applications québécoises ou canadiennes, pense-t-il. Il me semble qu'on pourrait légiférer. Ça pourrait donner une chance de plus d'être exposé à la culture d'ici. De Cornemuse à Lacaïnou. Il y a bien des raisons d'aimer la culture québécoise, selon les nombreux jeunes qui ont répondu à un appel à tous de la presse. Ils le disent dans leurs mots. Xavier Dolan. C'est vrai, il y a beaucoup de séries et de films attirants sur les diverses plateformes américaines, mais notre culture est diversifiée et mérite d'être connue davantage. Pense William Perrault, 16 ans, qui cite les films de Xavier Dolan comme source de motivation de son envie d'étudier le cinéma. Il n'est pas le seul. Mommy, 2014, cinquième film de Xavier Dolan, s'est démarqué dans l'appel à tous. La série Paul. Alexandre Brunet, 18 ans, a lu en boucle les trois albums de la série Paul que sa famille possédait. Après, je les ai tous achetés. C'est rare qu'un livre me donne autant l'impression de lire sur chez moi, écrit-il. Je ne dirais pas que j'ai une vie semblable au personnage principal, mais les références, les repères, même les expressions et les enjeux, ça me parle. Dans Nos mots, j'aime que chaque Québécois puisse comprendre exactement les mots choisis par nos auteurs, acteurs, humoristes et chanteurs, écrit Daphné Couture, 22 ans, qui cite notamment Étienne Copé, Rose et Jay Scott. Ça me touche de voir comment on se distingue par nos expressions, notre audace, notre créativité. Une télé qui évolue. Anaïs Legrand, 18 ans, dit apprécier l'évolution du genre d'histoire que la télévision québécoise choisit de raconter ces dernières années. Je pense à des séries télé comme La Candidate et Lacaïnou, précise-t-elle, qui m'ont tenue devant mon écran chaque semaine l'an passé. Empathie, Ils vécurent heureux et Chouchou ont aussi été cités avec enthousiasme. Une culture fleur de lys. Cet été, j'ai eu la chance de célébrer la Saint-Jean avec des jeunes de mon âge au Parc La Fontaine, en allant écouter un jeune artiste souverainiste qui a pris de l'ampleur ces derniers temps, Kin Gio. Ça peut avoir l'air banal, un simple spectacle, mais c'était bien plus. C'était de l'émotion. C'était une gang de jeunes qui se rassemblaient pour célébrer une province unique, pour souligner son authenticité, écrit Justine Dufour, 20 ans. Élevé devant la télé d'ici. Qu'ils soient nés ici ou ailleurs, les répondants à notre appel à tous ont été nombreux à citer des émissions jeunesse pour parler de leur initiation à la culture québécoise. En tant qu'immigrant, c'est grâce à des émissions comme Kaboom ou Cornemuse que j'ai pu apprendre le français. Maintenant, je suis un passionné de radio et de balado, surtout ceux de Radio-Canada. Je vais souvent au théâtre, écrit Jacob Pugliese Gomez, 19 ans, et j'aime beaucoup le cinéma de Monia Chokri. Un phare collectif. Je considère que la culture est notre phare collectif et qu'il faut en consommer, la promouvoir, l'encourager. Je me fais un devoir de suivre religieusement les émissions qui jouent à Radio-Canada, Nouveau, TVA. Notre culture est riche, rassembleuse, distincte, festive, estime Livia Sirois, 17 ans, qui c'est une panoplie d'artistes et d'œuvres qui la touchent, d'Arnaud Soli à Nos belles sœurs, en passant par les chansons d'Alexandre Poulain et de Vincent Vallière. Et les Cowboys fringants. La plupart des répondants n'étaient pas nés quand Toune d'automne est devenue un succès en 2002, lançant la carrière des Cowboys fringants dans les étoiles. Preuve que le groupe est désormais un classique intergénérationnel. C'est l'artiste musical d'ici qui a été cité le plus souvent parmi les répondants. C'était « Ils sont l'espoir de la culture d'ici », un dossier d'Alexandre Vigneault, paru le 10 novembre 2025 dans la presse.
Cancer. Un répertoire des essais cliniques au Canada rendu accessible. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 10 novembre dans la presse. Les Canadiens ont enfin accès à un site Web qui recense les essais cliniques menés à travers le pays contre le cancer, une ressource pourtant offerte de longue date dans des juridictions comme les États-Unis ou l'Europe. La Société canadienne du cancer et le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec ont ainsi annoncé lundi le lancement du site Essais cliniques sur le cancer au Canada, qui est présenté comme étant le seul site web national et bilingue destiné à centraliser l'information sur les essais cliniques et la rendre accessible aux patients. Citation. La diffusion de l'information concernant les études cliniques est une chose qui était manquante, a admis le Dr Denis Soulière, qui est hématologue-oncologue et porte-parole scientifique médicale de la Société canadienne du cancer. Elle existait de façon partielle dans certaines provinces, mais on sait qu'il y a certainement un besoin qui est exprimé par la population. Fin de citation. Une enquête menée récemment par l'Institut Angus Reid en collaboration avec la Société canadienne du cancer a ainsi constaté, sans grande surprise, que 90 % des Canadiens sont favorables à un accès élargi aux essais cliniques pour les patients atteints de cancer. Cela étant dit, face à un éventuel diagnostic de cancer, 74 % des personnes interrogées ont confié qu'elles hésiteraient à participer à un essai clinique par crainte d'effets secondaires indésirables et 66 % parce qu'elles se méfieraient de traitements n'ayant pas encore fait leurs preuves. Plus de 9 participants sur 10 ont admis ne savoir que peu ou pas de choses au sujet des essais cliniques. La nouvelle ressource, a-t-on expliqué par voie de communiqué, vise en partie à remédier à la situation en fournissant, citation, aux Canadiennes et aux Canadiens, à un seul et même endroit, de l'information claire et actualisée à propos des études menées auprès d'adultes à travers le pays en milieu universitaire et pharmaceutique. Fin de citation. Les essais cliniques, a-t-on rappelé, jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la recherche sur le cancer en permettant d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de nouvelles approches thérapeutiques sous étroite supervision médicale. Ils offrent aux patients l'occasion de participer à des projets qui pourraient potentiellement améliorer les soins pour les personnes atteintes de cancer et sauver des vies, a-t-on ajouté par voie de communiqué. Citation. On a malheureusement encore beaucoup de types de cancers pour lesquels on a encore des besoins très importants, c'est-à-dire que les traitements qui sont actuellement disponibles ne sont pas excessivement efficaces, a dit le Dr Soulière. Donc, ça amène beaucoup de gens à vouloir avoir des informations sur des options de traitement différentes, et clairement, les options de traitement différentes viennent quand elles sont développées dans le contexte d'études cliniques. Fin de citation. Les registres qui existaient jusqu'à maintenant étaient guillemets relativement austères, fin des guillemets, a-t-il ajouté, et s'adressait davantage à la communauté médicale qu'à la population en général. Le nouveau site propose des outils de recherche qu'on dit adaptés, guillemets, aux besoins des patients et des professionnels de la santé, fin des guillemets. On y retrouve, par exemple, des fiches détaillées sur chaque essai, notamment en ce qui concerne le type de traitement, les avantages et les risques des essais, les critères d'admissibilité, le lieu où se déroule l'essai et les coordonnées des personnes ressources. Par exemple, lors d'une visite récente sur le site, il n'a fallu que quelques clics pour trouver plus de 500 essais cliniques portant, de près ou de loin, sur le cancer du sein, près de 200 consacrés au cancer de la prostate et près de 250 qui portent sur le cancer du poumon. Des cancers aussi impitoyables que le glioblastome, le cancer du pancréas et le cancer du foie ne sont pas en reste, avec respectivement 20, 80 et 215 essais cliniques. Citation. Le but était de développer quelque chose qui servira autant, ellipse, aux professionnels de la santé qu'aux patients qui pourraient être intéressés par le fait de rechercher une option d'essai clinique plutôt que simplement les traitements conventionnels, a expliqué le Dr Soulière, fin de citation. On espère que l'outil favorisera le dialogue entre le patient et son médecin en rendant facilement accessible l'information concernant les occasions qui sont disponibles, citation, en termes de traitement, mais aussi en termes de recherche, a-t-il précisé. Dans les études cliniques, le diable est dans les détails, a rappelé le Dr Soulière. Même si de prime abord, en lisant un titre, on pense que ça pourrait s'appliquer à nous, quand on regarde les critères spécifiques, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, sincèrement, je pense que ça devient un outil pour discuter de la maladie et des opportunités de traitement. Fin de citation. L'outil permettra aussi de mesurer si suffisamment d'occasions de recherche sont offertes aux patients du Québec et du Canada, a-t-il ajouté, même si plusieurs acteurs du milieu considèrent d'emblée que ce n'est pas le cas. Face à cette situation, a-t-il ajouté, la Société canadienne du cancer a pu prendre, citation, le relais du gouvernement qui, à mon avis, devrait démontrer son intérêt envers les essais cliniques et favoriser qu'un tel registre existe et favoriser aussi que de plus en plus d'études cliniques soient accessibles à un grand nombre de patients qui ont le cancer au Québec et au Canada. Le but ici est de faire en sorte qu'on augmente les opportunités parce que si l'information n'avait même pas été là, un certain nombre de personnes ne pourraient peut-être même pas avoir accès à cette information pour peut-être être dirigées vers un essai clinique, a conclu le Dr Soulière, fin de citation. C'était « Cancer, un répertoire des essais cliniques au Canada rendu accessible », un texte de Jean-Benoît Legault paru le 10 novembre dans La Presse.